soir, situation sécuritaire au Nord Kivu. Les responsables du M23 annoncent le retrait de leurs troupes de la ville de Goma et du territoire de Masisi pour demain jeudi. Pendant ce temps, le président de cette rébellion demande au gouvernement de Kinshasa des signes de bonne volonté, entre autres la neutralisation de tous les groupes armés étrangers, la dissolution de la CENI, la libération des prisonniers politiques et la liberté des mouvements d'Étienne Tshisekedi. Comment analyser cette position du M23? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 28 novembre 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique du Congo et analyste politique. Abbé Mugaruka, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Kongolo, analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Dominique Wertz, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et membre de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Figo Patrick Kamavu de Goma au Nord Kivu. Je pense que ce retrait du M23 n'arrange pas jusque-là la population congolaise en général et celle de Goma en particulier, car ces rebelles disent qu'ils vont laisser à Goma sa police issue de sa branche militaire et son service administratif. Ne voyez-vous pas que cela reste un danger pour la population? Il faut qu'ils subissent une pression militaire. Raymond Kasangala de Kinshasa, nous nous empressons de dire au M23 de quitter Goma. Cela ne peut aucunement nous réjouir car les autres territoires où ils vont se déployer, la population subit au quotidien des exactions. Il convient de réfléchir comment mettre fin à cette crise. Au lieu de poser des préalables sur Goma, le dialogue inclusif est incontournable pour la solution à cette crise. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nord Kivu, les retraits du M23 de la ville de Goma et du territoire des Masisi est annoncé pour demain jeudi. Selon le responsable du M23, l'heure est actuellement au regroupement des troupes à Sake, à 27 km à l'ouest de Goma. Ce retrait du M23 est consécutif à la recommandation du sommet de la CIRGL tenu le week-end dernier à Kampala. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le terrain? Gisèle Cage nous fait le point depuis Goma.
Ce matin, quelques combattants du M23 sont toujours visibles à Goma. Selon les témoignages des habitants, quelques hôtels et maisons de particuliers qui hébergeaient certains combattants auraient été vidés la nuit dernière. Mais selon le porte-parole militaire du M23, le retrait des troupes de Goma n'a pas encore commencé. Seuls des matériels militaires et équipements médicaux sont acheminés depuis hier dans les anciennes bases au niveau du territoire de Rutshuru. Vianney Kazarama annonce que le gros des troupes qui occupaient les localités de Ngungu, Umure, Mushaki, Kirolure, ainsi que les collines de Mure dans le Masisi, sera regroupé dès aujourd'hui à Sake, 27 km à l'ouest de la ville. Mais le retrait lui-même ne sera effectif qu'à partir de demain, précise-t-il. Et c'est à Kibumba, 30 km au nord de Goma, que ce mouvement rebelle établira son état-major général, a dit Vianney Kazarama. Vendredi prochain, le chef d'état-major général de la Conférence internationale des pays de la région de Grand Lac vont se réunir à Goma. Il sera question de s'assurer du retrait total des rebelles de la capitale du Nord Kivu. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Les rebelles du M23 acceptent de se retirer de Goma, mais sous condition. Ils demandent au président Joseph Kabila d'élever un certain nombre de préalables avant tout retrait de la ville. Ils l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse tenue hier, mardi à Goma, au Nord Kivu. Denise Lukeso, qui a pris part à cette conférence de presse, nous fait le point.
Notre préoccupation majeure, ce n'est pas la ville de Goma. Nous nous battons pour trouver des solutions aux problèmes de la RDC. C'est ce qu'a déclaré le président du M23, Jean-Marie Runiga. Le M23 s'est dit favorable à ses retraits, mais en émettant des préalables à lever auparavant par Joseph Kabila. Voici les plus importants avec Jean-Marie Runiga.
Les retraits, oui, rapidement, que M. Kabila fasse la levée immédiate et sans condition de la privation des libertés imposé à M. Étienne Tshisekedi, déclarer un cessez-le-feu avec le M23 et fixer rapidement les calendriers de négociations entre 2023, l'opposition politique, la diaspora, la société civile. Et enfin, en même temps que nous ferons les retraits, nous voulons voir M. Kabila retirer les FNL, les FLR et les ADFNAL.
Par ailleurs, les M23 annoncent l'ouverture de couloirs humanitaires dans les zones sous son occupation. Il s'engage, dit-il, à garantir la sécurité aux ONG internationales et nationales dans l'exercice de leurs missions. Pour ce qui concerne la MONUSCO, les M23 réitèrent son désir de collaborer avec la mission onusienne dans le cadre d'un mémorandum que le président du mouvement appelle la MONUSCO a signé avec lui. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
Réagissant aux nouvelles revendications du M23, le porte-parole du gouvernement central a estimé que ces nouvelles conditions, parfois tirées de la très prolixe rubrique des faits divers de la presse et de la rumeur quinoise, ruinent la crédibilité de leurs auteurs. Il a qualifié ces nouvelles revendications de distraction. Abbé Richard Mugaruka, vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo et analyste politique. Comment vous analysez cette position du M23?
Merci pour la question. Il me semble que le problème de fond de cette guerre que nous venons de vivre et qui est entrée dans la phase des négociations, faut pas dire qu'on ne négocie pas. Hein. Le fait d'avoir été, pour notre président, d'avoir été à Kampala, causé avec ses homologues de Kigali et de Kampala, qui sont considérés comme les commanditaires de l'agression, eh bien, c'est une négociation. Et les premiers résultats de ces premières négociations, c'est à cela que nous avons affaire aujourd'hui.
Le gouvernement refuse de parler des négociations.
Oui, mais il le fait. D'ailleurs, toute guerre se termine toujours par une négociation. Malheureusement, lorsque il y a négociation à la fin d'une guerre, le vaincu doit subir la loi du vainqueur. Mais enfin, il n'y a pas moyen d'en sortir autrement, sinon par la négociation. Et c'est pour cela que les sages vous diront qu'il vaut mieux négocier avant la guerre qu'après. Parce qu'après la guerre, les dégâts irréparables sont là et il n'y a pas moyen de rentrer en arrière. Revenons à notre question. Le problème qui était posé, le problème de cette guerre, le problème qui a été l'objet des négociations entre les trois présidents, celui du Congo et les deux autres, celui de Kigali, celui du Rwanda et celui de l'Ouganda, qui sont considérés comme les commanditaires de cette guerre, avait pour objet deux problèmes. Le problème du respect de la souveraineté nationale du Congo et le problème de l'intégrité du territoire. Ce problème de la souveraineté et de l'intégrité du territoire n'ont pas été résolus et ne sont pas résolus par le seul retrait des rebelles de la ville de Goma. Parce que la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire concernent l'ensemble du territoire. Rester à Rutshuru ou dans un quelconque coin du Congo laisse entier le problème de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire. Dire aux rebelles de se retirer à 20 km de Goma et d'aller installer leur quartier général à 30 km de Goma, ce n'est pas encore résoudre le problème, c'est laisser le problème entier. Et donc là, c'est sur ce point-là qu'il faudrait qu'on s'entende. Seulement, attention, c'est depuis la chute de Mobutu que l'on a assisté à un remodelage de la configuration géostratégique et géopolitique de la région des Grands Lacs d'Afrique. Alors que jusque-là, le Congo avait une position dominante, eh bien on a assisté à l'émergence des nouveaux leaders, du leadership de Kigali et du leadership de Kampala, et c'est eux qui occupent aujourd'hui la position dominante dans cette région. Et les Congolais ont oublié que la seule façon de restabiliser la situation dans cette région, c'est de modifier les rapports de force sur le terrain, lesquels rapports de force sont en défaveur de la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. Tant qu'il en sera ainsi, on aura beau aller négocier, on aura beau avoir des pourparlers avec les voisins, comme ils sont les plus forts, ils nous imposeront leurs lois. Donc c'est ça qui est le fond du problème. Or, modifier les rapports de force sur l'échiquier des relations extérieures ou internationales est d'abord une question de politique interne. C'est-à-dire que La politique extérieure d'un pays est toujours le reflet, le prolongement de sa politique interne. C'est donc à l'interne qu'il faudrait que l'on puisse refonder, restaurer l'état de droit au Congo, restaurer les fondamentaux de la démocratie, et ça sera la condition pour que nous soyons assez forts pour pouvoir négocier sur l'échiquier géopolitique, géostratégique, sur l'échiquier international. Et donc tout ça, le dialogue intérieur, qui est absolument nécessaire et qui est le dialogue étant le poumon par lequel respire la démocratie. Dans tout pays, le dialogue entre le peuple et Dieu doit être permanent. Et s'il faut restaurer cela et régler les problèmes intérieurs pour que nous ayant rétabli les fondamentaux à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la politique interne du pays, nous soyons alors capables de pouvoir mieux négocier sur le plan de la politique extérieure.
Abbé Mugaruka, il y a Mirembe Butsapu de Kisangani en province orientale qui dit ceci: les revendications du M23 rejoignent le souhait du peuple congolais, mais un problème se pose, celui de savoir si celle-ci était déjà leur objet de lutte à la conception du dit mouvement, ou cela est venu voyant qu'il n'avait pas encore l'appui du peuple congolais, à l'exemple de l'AFDL. Alors je demanderai à la communauté internationale, à tous les vrais politiciens animés par la volonté du changement, d'examiner à fond la demande de ces soi-disant patriotes, si c'est fondé de les appuyer.
Oui, c'est ce que j'ai dit. La politique extérieure d'un pays dépend toujours de sa politique intérieure. Et donc, s'il y a des problèmes à l'intérieur du pays, s'il n'y a pas de consensus, s'il n'y a pas de cohésion entre le peuple et les dirigeants, eh bien, nous risquons d'aller vers de nouvelles violences du genre de celles que nous connaissons aujourd'hui.
Les revendications du M23 sont-elles fondées?
La question, ce n'est pas que ces revendications soient fondées ou pas. Ce sont des revendications dont il faut dialoguer, dont il faut tenir compte, parce que, justement, comme je l'ai dit, le dialogue est le poumon par lequel respire la démocratie. Dès lors qu'il n'y a plus moyen de dialoguer, eh bien, c'est la porte ouverte à la violence, à la voie des faits. Et donc, quelles que soient les revendications que des uns et des autres, avant de se poser la question de savoir si celles-ci, elles sont fondées ou pas, ce sont des revendications qui sont là et qui demandent d'être résolues dans le dialogue.
Merci.
Et donc, ce qu'ils demandent est tout à fait normal en démocratie.
Merci, Abbé.
Si tant est que ce sont des Congolais, naturellement.
Merci, Abbé Mugaruka Joseph. Congolo, vous êtes analyste politique. Le M23 accepte de quitter Goma, mais selon son président, la ville restera sous administration du M23. Et même politiquement, c'est le M23 qui va gérer la ville de Goma. Est-ce qu'on peut parler des retraits dans ce cas?
Bon, en fait, je voudrais d'abord revenir sur un élément essentiel, c'est que la guerre de l'Est, la guerre de Goma, si vous voulez, la guerre de l'Est en général, c'est une guerre qui a toutes les allures d'une guerre provoquée, d'une guerre entretenue et d'une guerre maîtrisée aussi. En fait, toutes les allures d'une guerre par procuration, ce sont des guerres qui se sont succédées, qui se terminent sans victoire militaire. Et même sans négociation, parce qu'en fait, la négociation, c'est le saupoudrage. C'est juste une formalité. La guerre de Kunda ne s'était pas terminée par une victoire militaire des FARDC. Voyez-vous? Alors, la fin de la guerre, il y a les commanditaires de la guerre, quand ils se réveillent, ils se décident de la fin de la guerre et la guerre prend fin, sans une victoire militaire. Et quand on s'émue en parti politique ou encore dans une organisation, une sorte de négociation, c'est juste un protocole, n'est-ce pas, dans lequel d'ailleurs creux, très souvent. Donc on comprend que c'est une guerre par procuration, une guerre des commanditaires, que les gens maîtrisent, ils provoquent et ils maîtrisent. C'est un levier pour eux, pour pouvoir arracher des concessions, n'est-ce pas, pour le pouvoir, soit empêcher le chef, aujourd'hui, de sortir de cette paternité de Kagame et de Museveni. Il empêche de sortir de cette paternité. Donc chaque fois quand il fait un pas pour se dégager de cette paternité, n'est-ce pas, il lui rappelle à l'ordre. À partir de cette arme, de ce levier qu'il remue toutes les fois que M. Kabila tente de se départir de cette autorité. Donc c'est vraiment une guerre par procuration, une guerre provoquée et une guerre maîtrisée. Ce n'est pas normal. La guerre se termine comment? C'est une honte. On voudrait montrer à M. Kabila que tout ce qu'il voulait faire, n'est-ce pas, il n'a pas les moyens de le faire. Et on a pris Goma, on a humilié la nation. Ça c'est vrai, c'est une humiliation de la nation. Et aujourd'hui, on retire la guerre. Ça veut dire que l'objectif a été atteint. L'objectif a été atteint. Les commanditaires lui ont rappelé qu'ils restent sous leur responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Les guerres de l'Est, elles se succèdent, elles ne se terminent pas. Elles s'éteignent tout simplement et puis elles réapparaissent. Nous sommes dans un cycle vicieux, dans un cercle vicieux. Et ça, c'est quelque chose. Ça montre quoi? Que toutes les guerres ont été mal éteintes. Parce qu'il n'y a pas eu de bonnes négociations, il n'y a pas de meilleurs arrangements, et les guerres réapparaissent sur les mêmes cendres, et régulièrement. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une thérapeutique à la mesure, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, si vous voulez, les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je crois que M. Labbé vient de le dire assez clairement, l'intérieur, c'est le lit. C'est le lit même qui donne la force, n'est-ce pas, à l'aspiration, n'est-ce pas, des problèmes des autres vers notre pays. Nous avons cette capacité-là d'aspirer les difficultés des autres, d'aspirer les problèmes des autres vers notre pays à cause de la faiblesse interne. Nous n'avons pas, l'État est défaillant. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Vous savez que tous les domaines de coopération, n'est-ce pas, ce sont des domaines qui relèvent, n'est-ce pas, du pouvoir régalien, que ce soit dans la sécurité, dans l'économie et tout ça, nous sommes assistés. Donc il y a une faiblesse totale de l'État, et ce qui lui donne une capacité extraordinaire d'aspirer, n'est-ce pas, les problèmes des autres. Donc nous sommes dans un cercle vicieux, n'est-ce pas, en même temps affaiblis de l'intérieur, et tout le monde, n'est-ce pas, nous donnons du flanc, n'est-ce pas, à tout aventurier de venir faire ses aventures à l'intérieur de notre pays. Et ça, c'est une situation de non-État, en fait. C'est une situation de non-État. C'est ce que ça s'appelle. Mais c'est peut-être trop fort, mais c'est ça, en fait. C'est la situation de non-État.
Alors, Joseph Kongolo, les responsables ou les M23 demandent au gouvernement de Kinshasa de neutraliser tous les groupes armés étrangers qui opèrent en RDC. Est-ce que c'est une revendication qui demande à ce que les gens prennent les armes ou que les gens fassent une rébellion?
Toutes les revendications du M23, ce sont des bonnes revendications. En fait, c'est comme l'auditeur de tout à l'heure, ce sont des revendications politiques qu'ils ont ramassées pour en faire un cahier de charge. En fait, il n'y a pas de cahier de charge. Jusque-là, ils ne l'ont pas exprimé. Ce qu'ils ont exprimé, ce sont des revendications politiques de l'ensemble de la classe politique et sociale du pays. Voyez-vous? Donc, ils ont ramassé, ils en ont fait un cahier de charge pour brandir, n'est-ce pas, à la face de la nation. Mais en réalité, il y a un cahier de charge qu'ils doivent avoir. Parce que la guerre n'a pas été causée par ces revendications. Ils ont d'autres revendications qui ont donné lieu à la guerre. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, je crois que monsieur Labbé l'a dit tout à l'heure. Le grand problème, c'est pas de libérer Goma. Voyez-vous? C'est quand il y a un morceau de territoire qui reste sous la responsabilité, en dehors de la responsabilité du gouvernement central, en ce moment-là, nous sommes sous occupation. Nous sommes toujours agressés. On n'a pas résolu le problème. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est pas la résolution d'un problème. La force neutre internationale, ce ne sera pas non plus la solution. Ce que nous voulons, c'est mettre fin à la guerre.
Merci Joseph Kongolo. Professeur Dominique Ratz, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et membre de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Vous avez suivi là, on a énuméré quelques revendications du M23, entre autres la neutralisation de tous les groupes armés étrangers, la dissolution de la CENI, la libération des prisonniers politiques et la liberté des mouvements des Tienne Tshisekedi. Parlons de la neutralisation de tous les groupes armés étrangers. Est-ce que c'est à la RDC de neutraliser tous ces groupes armés qui ne dépendent même pas du pays ou du gouvernement congolais?
Mais oui, c'est une bonne question. Et pour revenir un petit peu sur ce que disaient vos deux invités, je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils disent et ce qu'ils affirment. Je voudrais juste, peut-être justement, par rapport à la question que vous posez, remettre ça dans un contexte un petit peu plus international. Et il est évident que la région de l'Est de la République démocratique du Congo, si elle vit des moments aussi difficiles depuis autant d'années, c'est parce qu'il y a des ressources naturelles qui sont évidemment immenses et en plus qui font la convoitise de l'ensemble de la communauté internationale. Alors si on avait un problème politique intérieur dans un pays qui n'avait pas les richesses que détient la République démocratique du Congo, je pourrais tout à fait accepter le fait qu'il faille un dialogue intérieur et qu'on fasse en sorte que, en fonction des différentes revendications politiques des uns et des autres, tout cela se règle entre les citoyens, les responsables du pays. Mais malheureusement, l'Est de la République démocratique du Congo dépasse évidemment les intérêts directs de la République elle-même, puisque on sait très bien que toutes les ressources qui sont là, eh bien, font la convoitise de forces étrangères, et pas uniquement voisines. Je pense qu'il ne faut pas conscrire la question de l'Est avec l'Ouganda et le Rwanda qui seraient, qui sont, et on le sait donc maintenant, je pense qu'il n'y a même plus d'ambiguïté à ce niveau-là. On sait bien, les derniers rapports des Nations Unies l'ont démontré, des experts du comité de sanctions l'ont démontré, il est évident que l'Ouganda et le Rwanda sont derrière le soutien logistique, financier et militaire du M23 et de l'armée révolutionnaire du Congo. Alors, est-ce que c'est au Congo à lui-même régler tous les groupes rebelles irréguliers qui sévissent dans la région? Oui, c'est évident que si l'on veut en effet maintenir l'intégrité du territoire et si l'on veut que le pouvoir à Kinshasa maintienne son contrôle sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, ben oui, il est clair que c'est à lui, en partie évidemment, à essayer de régler, de réguler et surtout de maintenir la sécurité et la paix et donc d'anéantir ces groupes rebelles. Mais malheureusement, comme la région est tellement convoitée, je pense que la République démocratique du Congo ne peut pas elle seule régler et essayer de gérer ce problème-là. Il faut une mobilisation d'abord des pays voisins, mais surtout de la communauté internationale et de tous ceux qui profitent des richesses qui sont dans le sous-sol congolais, et ceux qui en profitent sont souvent très loin des frontières de la République démocratique du Congo. Ils sont au Canada, ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis, ils sont au Liban, ils sont en Inde, ils sont en Chine. Et donc, il faut que la communauté internationale démontre sa volonté de vouloir retrouver la paix et surtout l'ordre dans cette région-là, afin que le Congo puisse véritablement bénéficier de ses ressources naturelles et faire en sorte que le revenu de ces richesses qui sont exploitées et qui sont nécessaires à l'ensemble du développement économique mondial, ben, reviennent quand même aussi à la population. Donc je pense que, en effet, tant qu'on n'aura pas une volonté politique claire de la part de la communauté internationale et de tous ceux qui profitent des ressources du sous-sol congolais, afin de pouvoir pacifier et remettre de l'ordre dans cette région, tant qu'on n'aura pas ça, je pense que le pouvoir de Kinshasa, malheureusement, ne peut pas régler par lui-même et tout seul la question de ces groupes rebelles qui sévissent dans cette région à l'est du Congo.
Alors, professeur, il y a cet auditeur qui nous écrit de Kalima au Maniema, Augustin Mwango, qui dit ceci: le retrait du M23 de Goma ne devrait pas être considéré comme la fin de la crise, mais plutôt comme le début d'un long et délicat processus de paix qui demande beaucoup de volonté politique et d'élégance de la part du pouvoir de Kinshasa, car qu'on le reconnaisse ou pas, les faits que revendiquent ces mouvements sont indéniables, même s'il n'est pas les mieux indiqués pour le dire. Il serait mieux que cette fois-ci, le pouvoir de Kinshasa examine objectivement les cahiers des charges de tous les groupes armés congolais actifs sur son sol, au lieu de se limiter à la seule question du M23 au détriment des autres groupes armés qui sèment l'insécurité et attaquent régulièrement la population civile. Professeur, comment vous réagissez à cette réaction d'Augustin Mwango que nous écrit de Kalima au Maniema?
Écoutez, Je peux tout à fait entendre que les revendications qui apparaissent subitement alors qu'il y a l'ultimatum qui vient de tomber venant du M23 sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, sur l'arrêt de tous les groupes rebelles qui sévissent dans le pays, mais ils en sont un des acteurs, hein, entre parenthèses, sur la mobilité de mouvement de M. Tshisekedi. Évidemment que ces revendications-là sont peut-être légitimes et intéressantes, il n'empêche que pour moi, la question qui est posée par ce groupe qui est quand même informel, non reconnu, irrégulier, dont un des chefs est quand même poursuivi par la Cour pénale internationale. N'oublions pas que M. Bosco Ntaganda est aujourd'hui avec un mandat d'arrêt international, non pas comme son collègue M. Nkunda, délivré par la République démocratique du Congo, mais bien délivré par la haie, par la Cour pénale internationale. Il y a des exactions dont sont responsables les personnes qui sont à la tête aujourd'hui de ce mouvement, qui tout d'un coup se retrouvent démocrate et voudrait renforcer la démocratie, la transparence, la liberté en République démocratique du Congo. Je trouve que c'est quand même un tout petit peu osé, et pour moi, même si ces revendications sont intéressantes, ce n'est pas un groupe comme celui-là pour moi de les poser. Je pense qu'il y a encore en République démocratique du Congo, des institutions qui sont issues d'un processus électoral qui a commencé en 2005, qui est passé par les élections en 2006, qui est passé par une partie du processus électoral en 2011, et actuellement, pour moi, c'est au Parlement congolais à Kinshasa, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, de véritablement définir s'il faut aujourd'hui revoir et réformer la Commission électorale nationale indépendante.
Merci, professeur Dominique Abbé Mugaruka. Vous ne semblez pas être d'accord avec le professeur Dominique Wertz. Je vous ai vu tout à l'heure faire un signe de négation avec votre tête pendant qu'il parlait.
Non, le problème de l'Est, de la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo est un problème très complexe. Nous ne sommes pas le seul pays qui a des richesses et pourtant ne fait pas des guerres partout. C'est parce que les autres pays défendent mieux leur souveraineté, leur intégrité. Nous ne sommes pas le seul pays où il y a des. Nous sommes ici dans la région de l'Afrique centrale, le seul pays où qui abrite des groupes armés des pays voisins. Les RA et les FDLR, ADF Nalu, ce sont des Ougandais. Les FDLR sont des Rwandais. Le Rwanda et l'Ouganda demandent au Congo de négocier avec ces rebelles. Pourquoi est-ce que eux ne négocient pas avec les leurs? C'est uniquement parce qu'ils sont en position de domination qu'ils imposent au Congo une logique qu'ils ne vont pas prévaloir chez eux. Et ici, je voudrais souligner que, en fait, la solution au problème des FDLR et la solution au problème de ADF Nalu et LRA se trouve en partie en Ouganda pour les rebelles ougandais et au Rwanda pour les rebelles rwandais. Si eux pensent que pour que nous puissions mettre fin à ce problème-là, au problème de rébellion, nous devons négocier avec nos rebelles, il faudrait eux aussi qu'ils prennent le soin de négocier avec leurs propres rebelles pour leur donner la possibilité de pouvoir rentrer chez eux dans leur pays, plutôt que de rester ici en train de piller les richesses de notre pays et surtout de commettre des exactions contre les populations civiles innocentes. Donc je veux dire ceci, c'est que tout ça est vrai, mais c'est à nuancer. Et je voudrais rechuter sur cette idée-ci. Dans tous ces, dans des situations de ce genre-là, le rôle primordial revient au gouvernement congolais, qui doit, par le recours aux mécanismes démocratiques normaux, j'appelle les mécanismes démocratiques normaux, entre autres, le dialogue permanent entre le peuple et ses dirigeants, et là je suis d'accord avec lui, le Sénat devrait être impliqué, le Parlement devrait être impliqué, les partis politiques devraient être impliqués, la société civile devrait être impliquée, et donc par un dialogue permanent entre toutes les forces vives de la nation, essaye de donner à l'État une certaine cohésion, et c'est cette cohésion de la politique intérieure qui permet à l'État d'être capable de se présenter et de négocier valablement sur l'échiquier international, que ce soit avec les pays voisins ou ce que l'on appelle la communauté internationale. Je voudrais terminer en disant que une des faiblesses de notre État, c'est de n'avoir jamais pris en considération le fait qu'un peuple, un pays n'est jamais mieux protégé que par lui-même. Penser que la solution à nos problèmes viendra de l'extérieur seulement, c'est une erreur monumentale. Les relations internationales sont basées sur la loi de l'intérêt et il n'y a personne, il n'y a aucun pays qui est mieux servi que par lui-même dans ce cas de figure. Donc c'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous de nous doter de tous les attributs de la souveraineté. C'est à nous de nous organiser pour avoir une forte politique intérieure afin que nous soyons capables de mieux négocier avec l'extérieur et d'abord avec nos voisins les plus proches, mais aussi avec la communauté internationale.
Abbé Mugaruka, brièvement, les M23, parmi les revendications, ils demandent la dissolution de la CENI. Et c'est à un groupe rebelle de faire ce genre de demande, alors qu'on a un parlement issu des élections de 2011 qui peut faire cette demande.
Mais non, revenons aux principes fondamentaux de la démocratie. N'importe quel citoyen, la citoyenneté signifie la liberté et la possibilité de participation. Même si vous seul, vous avez une bonne idée pour la marche du pays, vous avez le droit de la présenter à nos dirigeants, soit par le député que vous avez élu, soit par une pétition, et vous savez que notre constitution permet à chaque citoyen, individuellement, de s'adresser aux autorités du pays, et ils ont le devoir de lui répondre dans les 3 mois. Donc ça, ce n'est pas le problème, d'où que ça vienne. Maintenant, évidemment, je ne dis pas que le M23 a toutes les vertus. Bien au contraire, si on fait un dialogue véritable, les autres forces vives démontreront à M23 que non seulement il est anticonstitutionnel, mais qu'il a commis des crimes tels qu'il le disqualifie comme interlocuteur. La place du M23, ce n'est pas la table des négociations, c'est au tribunal et probablement en prison.
Merci Abbé Mugaruka. Joseph Kongolo, au départ, les revendications du M23 portaient sur les accords de Goma. Aujourd'hui, d'autres revendications s'ajoutent à celles des accords de Goma. Quelles intentions pour avoir, selon vous, le M23 en rallongeant sa liste des revendications?
Bon, c'est
une quête... faire chanter le gouvernement central congolais?
D'abord, une quête d'alliance avec les masses. Parce que l'ensemble des revendications que nous avons, ils les ont ramassées dans la population. Quand vous allez au Parlement, vous trouvez les mêmes revendications. Vous allez dans la société, vous trouvez les mêmes revendications. Donc, la première démarche pour eux, c'est de s'allier les masses. S'allier, n'est-ce pas, les masses, n'est-ce pas, s'approcher auprès de la population pour trouver peut-être une certaine affinité. Ça, c'est la première démarche. Mais, comme l'abbé Mugaruka vient de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la légitimité du M23 posée, n'est-ce pas, toutes ces revendications, constitutionnellement parlant, n'est-ce pas, elle est effacée. Mais au fait, la nature des revendications, c'est-on des revendications que nous entendons tous les jours, n'est-ce pas, que nous exprimons tous les jours, n'est-ce pas, au pouvoir. Donc, ce sont des revendications en soi, qui sont bonnes, qui sont des revendications, qui sont vivantes, qu'on retrouve partout. Mais est-ce que la qualité du M23 aujourd'hui, dans la situation qui s'est placée, je crois que ça annule un tout petit peu, n'est-ce pas, toute cette légitimité-là, et peut-être même cette légalité, parce qu'en fait, ils se sont mis en porte-à-faux, n'est-ce pas, avec la loi. Donc ça, c'est un élément. Mais je voudrais en même temps revenir sur ce que le professeur a dit tout à l'heure. Je crois que la communauté, nous avons une expérience avec la communauté internationale. Chaque fois que la République démocratique du Congo traverse un moment de crise, généralement la communauté internationale s'enlise toujours. En 60, c'était la même chose. Et aujourd'hui, je crois que les historiens nous diront demain combien cette communauté internationale, à travers la MONUSCO, n'est-ce pas, et toutes les autres regroupements, n'est-ce pas, la CIRGL et tout ça, combien, je crois que les historiens nous diront combien, n'est-ce pas, cette communauté internationale aura apporté comme solution, n'est-ce pas, à la crise de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas à fonder notre espoir sur l'intervention de la communauté internationale. Attention, nous devons fonder l'espoir sur nous-mêmes. Ce que Clavel a dit, que nous pouvons être mieux servis que par nous-mêmes. Et ça, c'est un élément essentiel. Quand l'État est déliquescent à l'intérieur, eh ben, il attire toutes sortes d'aventuriers dans le monde pour venir faire leur aventure. Et l'abbé l'a dit, il n'y a pas que le Congo qui est riche. Et puis notre richesse n'a pas commencé aujourd'hui avec l'arrivée de l'OFNEL. La richesse a toujours existé. Elle a toujours existé. Toutes ces recherches là-bas à l'Est n'ont pas été faites en 97. Donc ça a été fait bien avant et c'était connu qu'il y avait de la richesse à l'Est. Voyez-vous. Mais comme on avait la capacité de défendre la souveraineté, on ne pouvait pas nous attaquer. Donc on a profité de la déliquescence de l'État à l'intérieur. C'est comme ça qu'on a aspiré toutes sortes, n'est-ce pas, de difficultés, toutes sortes, n'est-ce pas, de convoitises de l'extérieur. Et ils ont eu la facilité d'entrer. Donc, il faut dire une chose, que je crois que le socle de la solution, le socle aujourd'hui, c'est aussi en dehors de la communauté internationale, mais l'essentiel pour nous, c'est à l'intérieur où il y a des choses qu'il faut réparer, il faut savoir corriger, n'est-ce pas, toutes ces manières d'aspirer, n'est-ce pas, de produire nos propres crises par toute cette faiblesse de l'État à l'intérieur. Ça, c'est notre maladie.
Alors, Joseph Kongolo, il y a Patrick de Goma qui dit ceci, je pense que ce retrait du M23 n'arrange pas jusque-là la population congolaise en général, et celle de Goma en particulier, car ces rebelles disent qu'ils vont laisser à Goma sa police issue de sa branche militaire et son service administratif. Ne voyez-vous pas que cela reste un danger pour la population? Il faut qu'ils subissent une pression militaire.
Oui, nous sommes en danger. Même quand ils étaient à Rutshuru, nous étions toujours en danger. C'est ce qu'il faut savoir. Même quand ils étaient à Rutshuru, nous sommes toujours en danger. Parce que nous devons compatir avec nos frères qui sont à Rutshuru. Ce sont des Congolais comme nous. Voyez-vous? Le danger reste permanent. Mais maintenant, nous allons observer la diplomatie du gouvernement. Qu'est-ce que eux vont faire? Ils vont suspendre la guerre, c'est-à-dire laisser le M23 à Rutshuru et à quelques 20 kilomètres, n'est-ce pas, et à l'aéroport, et même à Goma. Alors, ça va être quel état finalement? C'était pour quel objectif? C'est pour quelle solution dans l'avenir? Ça sont des solutions par à coup, hein, au coup par coup. Mais demain, qu'est-ce que ça va être? Quelle sera effectivement la capacité de négociation? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le Rwanda, l'Ouganda, n'est-ce pas, et le M23 qui sont en position de puissance aujourd'hui. Ils sont en position de puissance. Alors, nous ne savons pas quand les négociations proprement dites seront entamées. Qu'est-ce que le gouvernement va demander aux autres? Avec quels moyens? Voyez-vous, qu'est-ce qu'il va donner en concession? C'est ce que nous voulons savoir. Parce qu'en fait, arrêter la guerre à l'aéroport, tout ça, bataillon à l'aéroport, et puis Rutshuru entre les mains des M23, nous nous demandons finalement c'est quoi? Ou bien, on va légaliser la balkanisation, ou bien, il faut libérer l'ensemble du territoire national. Alors, nous attendons le gouvernement au coin de la rue pour savoir qu'est-ce qu'ils vont amener comme cahier de charge au niveau de négociation. En fait, et puis je ne voudrais pas, je suis en train encore une nouvelle fois de m'inquiéter, n'est-ce pas, de cette tergiversation toujours du gouvernement. Quand les idées viennent de l'opposition, M. Caméré l'a dit dernièrement, il a donné un cahier de charge clair, je crois que c'est ce que tout le monde a repris, il faut négocier, on l'a traité de tous les mots sous les médias. Non, mais aujourd'hui on est où? On est à la table de négociation, on négocie. On négocie. Non, il faut savoir exercer l'écoute dans une démocratie. On exerce l'écoute et on analyse avant de répondre.
Merci Joseph Kongolo. Professeur Dominique, certains observateurs estiment ou pensent que c'est pour gagner la sympathie de la population congolaise que ce mouvement M23 ajoute chaque jour des nouvelles revendications.
Oui, écoutez, je pense que ça fait partie d'une tactique tout à fait efficace, avec quand même deux limites. La première, c'est que je ne suis pas sûr que si on avait l'occasion de pouvoir écouter vos auditeurs qui sont dans les zones qui ont été tenues par les M23 depuis le mois de février, mars, avril de cette année, s'ils sont aussi enthousiastes par rapport au caractère démocratique et au caractère d'empathie avec la population dans les zones qu'ils ont contrôlées. Et même ces derniers jours, j'étais à Bujumbura il y a deux jours, et j'étais en contact avec des gens à Goma. Les gens étaient plutôt terrifiés par l'action des militaires du M23 que plutôt en liesse par une libération, une pseudo-libération de Goma par le mouvement du M23. Donc oui, en effet, je pense que c'est une tactique, d'autant plus qu'ils n'ont aucune assise politique, puisqu'ils n'ont pas été élus et qu'ils n'ont pas participé aux processus électoraux qui ont eu lieu en RDC. Et donc, sans doute qu'ils essayent de s'allier la population. Maintenant, n'oublions pas que leur action depuis quelques semaines a coûté 600 millions de dollars au budget congolais, hein, ce qui n'était pas prévu. Déjà, on sait que le budget était drôlement étriqué, mais la guerre qu'ils ont déclarée en essayant de prendre Goma et en prenant Goma a coûté 600 millions de dollars aux contribuables congolais. Donc, je ne suis pas sûr non plus que la population va être toujours très très heureuse de cette dynamique et de cette ampleur que prend aujourd'hui le mouvement, dont on sait que l'ampleur est en plus tout à fait liée au soutien qui est apporté par les pays voisins à ce mouvement rebelle. Tout seul, il n'aurait jamais pu prendre Goma. Ça, c'est évident. Je pense qu'il ne faut pas être un analyste militaire de haut niveau pour s'en rendre compte.
Merci, professeur Abbé Mugaruka. Assani Kamango de Kalima au Maniema dit ceci, que le gouvernement nous dise réellement ce qu'il a promis au M23 pour qu'il se retire de Goma, car nous savons que le président Kabila s'est entretenu avec Jean-Marie Runiga Kampala lors du sommet. Ceci pour éviter d'éventuels mouvements et que le peuple congolais ait une connaissance sur leurs accords. On en a assez des accords. Ah oui, clos. Jado Idlima de Bukavu, Sud-Kivu. Peut-on considérer que le M23, à travers ses revendications, veut faire l'avocat de l'opposition en RDC?
Bon, je crois que, effectivement, un problème de cette nature-là devrait être traité dans la transparence la plus totale et faire appel à la participation de toutes les forces vives de la nation. Et que le mieux à faire, c'est, si l'on veut obtenir justement le soutien de tout le monde, c'est qu'on invite toutes les institutions, toutes les forces vives organisées à participer à la négociation. Je reviens encore à cette idée d'un dialogue auquel prendraient part toutes les forces vives de la nation congolaise. N'oubliez pas que les gens qui meurent là-bas, ce ne sont pas des ministres et des élus. J'en connais très peu, en tout cas je n'en connais aucun jusqu'à présent qui est mort dans cette guerre. Aucun des élus. C'est une guerre qui concerne avant tout le peuple et que le peuple est représenté pas seulement par ses élus, mais aussi par ce qu'on appelle la société civile.
Et donc pour vous, la solution, c'est un dialogue à l'interne?
Oui, non, un dialogue que je pourrais appeler auquel participent toutes les forces vives de la nation pour que les gens qui sont justement en partie prenante, à tous les niveaux. D'ailleurs, le M23 recrute aussi parmi la population congolaise une partie de ses militaires. Ceux qui sont les victimes, ils sont aussi membres de la société congolaise. Et donc, il faudrait qu'on puisse s'arranger pour trouver une formule qui fasse participer toutes les forces vives de la nation, parce que alors la solution serait beaucoup plus durable. Du reste, le M23 serait vraiment mis en minorité si on devait faire participer l'ensemble de la population. Et donc, ça serait pour moi la meilleure solution.
Merci, Abbé Mugaruka. Je considère cela aussi comme votre conclusion. Nous restons moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Joseph Congolais, votre conclusion.
Bon, nous disons tout simplement que la négociation, il faut arrêter cette habitude d'aller négocier à 2 ou à 3. Il faut élargir le cercle de négociation. Il faut élargir le cercle de négociation. Parce qu'aujourd'hui, les accords du 23 mars, on les connaît pas, on les connaît en partie et tout ça, simplement parce que le cercle de négociation a été très amoindri. Élargissez le cercle de négociation pour que tout le monde prenne part. N'est-ce pas, ces négociations? Ça doit résulter dans un débat, d'une concertation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut appliquer de nouveaux remèdes pour ne pas souffrir de nouveaux maux. Quand on vous donne des solutions, la solution à un problème peut provenir de la société civile, de l'opposition. Non, vous fermez, vous bloquez vos oreilles à d'autres propositions et les vôtres n'arrivent pas à tenir. Je crois qu'il faut savoir faire le pas vers l'autre pour ne pas souffrir les nouveaux maux.
Merci Joseph Congolo. Professeur Dominique, vous pensez aussi qu'il faudra faire participer toutes les couches sociales ou politiques de la RDC aux différentes rencontres ou accords pour éviter qu'il y ait justement des suspicions de part et d'autre?
Écoutez, oui, je pense qu'en effet, l'accord de Kampala, la déclaration de Kampala de dimanche, montre que même si aujourd'hui le M23 quitte la ville de Goma, ils se maintiennent sur le territoire congolais, à 25-30 kilomètres au nord de Goma, du côté de Rutshuru, et donc c'est une situation très grave. Elle a été très grave dans les exactions qui ont eu lieu depuis quelques semaines. Elle est encore plus grave avec ce retrait sur le territoire congolais de forces étrangères, en tout cas de forces qui sont soutenues par des puissances étrangères voisines. Donc je pense qu'en effet, le dialogue à l'intérieur de la société congolaise, de la communauté congolaise, de l'État congolais, est indispensable pour tenter de sortir. Maintenant, je pense quand même, malgré les avis de vos deux invités en studio, je pense quand même qu'il va falloir aussi passer par une négociation au niveau international et notamment se poser la question du commerce des armes. Comment est-ce que les armes arrivent aujourd'hui au M23?
Merci.
D'où viennent-elles? Viennent-elles de Belgique? Viennent-elles d'Allemagne? Viennent-elles d'Angleterre, des États-Unis? Et deux, aussi, où en est-on aujourd'hui dans le commerce illicite de toutes les ressources naturelles du Congo?
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Rediffusion demain 4h15, heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.